la bande en direct, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, monsieur Daniel
Bonjour.
Qui revient d'une demi-finale défectueuse.
Ça commence.
Tandis Pasturo sera là tout à l'heure.
Bonjour.
Et nos invités sont Leïla Slimani et Sarah Giraudot. Qui sont les bienvenues? Elles étaient venues pour voir Leïla Kadorou-Dedi qui est en soins intensifs d'une gastro. Évidemment, on gardera évidemment cette intimité pour elle.
Dès qu'il y a un absent, c'est une gastro. Hein. C'est marrant. Hein.
Non, mais c'est vraiment une gastro.
Je crois que cette émission provoque des réactions.
Leïla, tu l'as eu au téléphone juste avant l'émission. Tu confirmes que...
Mais pas du tout. Non, mais laissez Leïla Kadorou-Dedi tranquille.
Moi, j'ai eu son médecin au téléphone. Il confirme.
On pense à elle, en tout cas. On pense à elle. Mais en saluant juste avant l'émission, nous deux invités, je vous le dis, hein, ouais. elles étaient très déçues de ne pas voir Leïla. Elles se demandaient même si elles allaient rester.
Alors, elle est à Garches, quatrième étage.
Mais à vrai dire, on nous a dit qu'elle a été arrêtée, et moi j'ai cru qu'elle avait été arrêtée par la police.
Oui.
Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé?
Ce genre de cliché raciste.
Non, mais j'attendais, c'est une histoire de roman. Je me suis dit, voilà, la présentatrice a arrêté juste avant l'émission.
À un moment, c'est vrai qu'elle se met dans des états minables en vacances.
C'est vrai que c'est un bon pitch de roman, ça. Une animatrice célèbre se fait arrêter par la police juste avant d'être à l'antenne.
Bah voilà.
Point de suspension.
Alors que si c'est un acteur, ça fait Benoît Magimel. C'est fou la vie. Hein.
Non,
alors que c'était qu'une gastro. Bon, voilà.
Ah, c'est moins grave. Elle revient quand elle veut, Leïla. Évidemment.
Quand elle peut, surtout.
Nous allons évoquer ensemble le 44e festival du cinéma américain de Deauville. Mais pour vous prouver, Sarah et Leïla, que nous sommes ravis de vous accueillir.
Même si,
point de suspension. Nous allons vérifier à quel point mes petits camarades de jeu vous connaissent et vous connaissent bien. Donc ne dites rien pour l'instant. C'est parti. Ah, c'est marrant, j'ai l'impression que c'est pas à l'antenne cette histoire. Une question qui concerne Leïla. Leïla Slimani, bien sûr, a une photo accrochée au-dessus de son bureau. Mais une photo de qui?
De moi.
Non.
Un écrivain?
Vous l'avez enlevé.
Un écrivain, Nagui?
C'est une femme.
Ah, oui.
Elle n'est pas connue pour ça.
Elle n'est pas connue pour
une
ça.
Une actrice.
Ah, Laurie.
Laurie,
elle a écrit un bouquin. C'est un super bouquin qu'elle a écrit, mais elle n'est pas connue pour
non,
ça.
Non. C'est sa meilleure amie, mais non.
C'est une chanteuse?
Non.
Une comédienne?
Non.
Vivante ou morte?
Pardon?
Une femme politique.
Vivante ou morte?
Simone Veil. Exactement.
Merci. Moi, je suis pas là pour vendre des gaufres. Hein. Je vous dis directement, je vais gagner ce concours à la fin de l'année.
Oui, je rappelle qu'on note les scores de tout le monde. Pour l'instant, c'est Jérémy Crédville qui est en tête. Je te précise.
Ouais, merci. J'ai bossé.
Déjà, il est plus drôle, mais en plus, il est en tête. Donc, fais attention.
Et puis, il est pas belge.
Fais attention. Alors, elle a toujours été présente dans votre
depuis mon adolescence.
Panthéon,
oui.
C'est vrai.
Bah ouais, toujours. J'ai toujours énormément admiré. Puis j'avais cette photo d'elle. En plus, elle est très très belle. Elle a un regard magnifique. Donc cette photo m'a suivie du Maroc jusqu'à ici.
Mais quand vous étiez plus jeune, vous ne connaissiez pas tout ce qu'elle avait vécu, vous ne connaissiez pas forcément son
histoire.
Discours.
Si, je connaissais son histoire, je connaissais son enfance terrible, la perte de sa mère, de sa sœur. Donc si, je connaissais cette histoire. Et puis ensuite la loi pour l'avortement.
Simone Veil.
Oui, ça c'est trop tard. Avez-vous eu l'opportunité, la chance de la croiser, de la rencontrer?
Je ne l'ai jamais rencontrée malheureusement. Mais alors tout à l'heure vous disiez, elle n'était pas écrivain. Elle a quand même écrit un livre qui a été
Ouais, mais l'inculture
qui a été
Nagui,
un immense succès. Non, mais je dis juste que en plus de toutes ses qualités, elle savait écrire et que ce livre est absolument magnifique.
J'ai dit elle n'est pas d'abord connue pour ça.
Enchaîne.
Je savais que je ne devais pas finir. Question concernant Sarah Giraudot. Elle aime beaucoup le petit déjeuner. Sarah, vous confirmez? Bah oui, écoutez, c'est ce que vous avez dit dans une interview.
Vous avez des miettes d'ailleurs là sur le côté.
Avec une gourmandise, voire une spécialité, que prend-elle au petit déjeuner? Ou que prenait-elle jusqu'aux années 2010 en tout cas, date de l'interview?
Du Nutella?
Non, pas
du fromage.
La chicorée?
Non. C'est très sain d'ailleurs.
Ah. Des céréales?
Du thé? Non,
des amandes?
Oui, alors des amandes, oui. Des amandes.
Défoncées.
Une espèce de purée d'amandes, mais il y a un fruit.
La pêche?
Non.
Cacahuète.
Non.
Fraise.
Purée d'amande.
Ouais, j'ai même envie de goûter ça.
Banane.
Exactement. Banane.
Elle a dit ça y est, j'ai la réponse. En fait, c'est un petit peu sourire.
C'est un peu votre petit déjeuner.
Ah oui, c'est Sarah Giraudot là.
Je cherchais en même temps que vous.
C'est plus d'actualité depuis l'interview que vous avez donnée en disant.
Les bananes, je pense que c'est d'actualité pour tout le monde, tout le temps.
Non, mais banane écrasée à la purée d'amande. C'est quoi cette recette?
C'était mon père. Très énergisant et bon.
J'ai l'impression de parler de choucroute et de quinoa.
Non, vous les écrasiez vous-même.
Parce que pour Nagui, ça a l'air hyper important.
Leïla Gadon, je dis, si tu nous écoutes,
je vais pas donner l'explication.
Je pense que le petit déjeuner est le repas le plus important de la vie. Voilà. Il faut oublier le dîner, tout consacrer au petit déjeuner. Ça, c'est ma théorie. Mais non, mais je veux goûter ce truc-là. Expliquez-moi. La banane, elle est juste écrasée.
Ah, mais non, je peux pas vous parler de ça, là. Je vais me sentir vraiment ridicule. Mais pourquoi? J'aurais d'amande chez Naturalia ou Biocoop, comme vous voulez. Vous le mettez dans votre banane.
Elle est déjà toute faite.
Non, vous écrasez la banane.
Non, mais la purée d'amande.
Elle est déjà toute faite. Ah, pardon.
Ok, d'accord. Purée d'amande toute faite. D'accord.
Ouais.
Achetée.
Complète.
Bio.
Mais toi, tu peux prendre quelqu'un pour la mâcher, déjà.
Non, non. La régurgiter, oui.
Et du miel.
Et pardon?
Et du miel.
Et du miel. Très bien, voilà. Si elle n'avait pas été auteure, quelle autre carrière Leïla Slimani aurait-elle pu épouser?
Simone Veil.
Quelle autre carrière?
Politique?
Non. Chanteuse?
Non.
Danseuse?
Non.
Prof?
Elle a vraiment envisagé, non.
Avocat?
Prof, oui, c'est vrai que prof, je vous verrais bien prof. Enfin, donneuse de leçons, je veux
dire.
Moi,
j'adorerais.
Mais...
Pompier?
Avocate? Non,
non.
C'est ça?
Non.
Non.
Gymnaste?
Non.
Styliste?
Non. C'est un métier artistique.
Un métier artistique.
Ah, coiffeuse?
Peintre?
Non.
Mais quoi? J'ai des vieux souvenirs.
Ah, c'est bien, ouais, je vois. Ouais. Je vois.
Chanteuse. Contractuelle.
Elle a même préparé, elle a travaillé, elle a réfléchi à embrasser cette carrière.
Ouais, là, on en policier? Fait pas mal, hein.
Non.
Sculpteuse?
Non.
Je fais tous les trucs artistiques, hein, j'en connais trois des arts.
Il faut pas, ne cherchez pas trop loin, quoi.
Cinéma, réalisatrice?
Non.
Actrice?
Oui. Mais oui, actrice.
Mais ça a été dit tout à l'heure.
Non, jamais.
Non, enfin, je crois pas.
Non.
Moi, j'ai pensé fort, puis je l'ai dit en premier.
Ouais, c'est ça, j'ai entendu penser.
Non, ça n'a pas été dit. Vous vouliez être comédienne. Vous avez pris des cours, vous avez
Mais j'adorais le cinéma, j'adorais le théâtre. Donc, j'ai essayé, quoi. Je suis allée, effectivement, j'ai fait le cours Florent, mais j'étais très médiocre, quoi.
Mais à quel moment? Parce qu'il y a plein de comédiens qui le sont. À quel moment on se rend compte qu'on est médiocre?
Et qui font carrière.
Non, je vais vous dire, en fait, je prenais pas de plaisir parce que je suis pas quelqu'un qui arrive à lâcher physiquement. J'étais impressionnée par les autres élèves qui ont vraiment une capacité à lâcher, à maîtriser leur corps, à jouer avec leur corps. Alors moi, pas du tout. J'étais beaucoup trop cérébrale, beaucoup trop en train de me regarder jouer, de réfléchir à ce que je faisais. Donc, j'ai compris que c'était pas pour moi.
D'accord. Est-ce que vos romans devenant des films, vous allez être particulièrement attentive à qui joue quel rôle, au casting, à comment c'est fait? Vous allez sur les tournages?
Non, je suis allée une fois sur le tournage de Chanson douce, mais ça a été très très dur pour moi. J'ai pas du tout supporté, donc je suis pas retournée parce qu'en fait, ce qui est très très bizarre, c'est quand vous écrivez, vos personnages, ils font ce que vous voulez qu'ils fassent. Vous dites assieds-toi, il s'assoit, meurt, il meurt, et ça va très vite et vous maîtrisez tout. Et là, de voir mes personnages incarnés par des gens qui ont une forme de résistance, enfin qui ont une liberté, un libre arbitre, qui se lèvent, qui veulent plus, qui truc, et ça m'a beaucoup beaucoup stressée, surtout avec les enfants, parce que ce sont des enfants qui jouent dans Chanson douce et de voir les bébés, ouais. Bah de voir les bébés qui incarnent donc le bébé et bah tout, oui. Ça m'a
troublé.
Je sais pas, ça m'a troublé.
Ouais. Pour Sarah, dites-moi, pour parfaire sa formation justement de comédienne, quel cours a-t-elle suivi? En plus.
Florent, Simon.
Non. Des cours de d'autres arts, entre guillemets, claquette. Que la comédie. Alors, c'est dans l'idée, mais c'est pas vrai.
Chant,
c'est pas la claquette. Oui, alors chant, oui, et autre chose.
Modern jazz?
Opéra. Non.
Lyrique?
Non.
Old jazz?
Reggaeton?
Non.
Hip-hop?
Non.
Non. C'est de la danse? Non.
C'est du chant, c'est de l'expression corporelle, mais c'est pas de la danse.
Du mime?
Exactement.
Ah, j'ai deux bonnes réponses.
Ouais, non, t'as un point, parce que t'avais les deux. T'avais un demi, puis
c'est
un
là
demi.
Que ça sent l'arnaque, quand
même. Non.
Je donne deux bonnes réponses, je me décarcasse. Hyper précis.
Ça, c'est l'expression corporelle, justement, Leïla disait de la difficulté d'être bien dans son corps quand on partage la scène avec les autres. Le mime, ça aide?
Ah oui, c'était. Mais il y a beaucoup de gens où ils sont très réfractaires au mime parce qu'il y a une image un peu de très clownesque et très.
On peut sentir ridicule de faire croire que on ouvre une porte, il y a pas de porte, c'est ça?
Voilà, mais c'est pas du tout ça. En fait, le mime c'est une désarticulation de tout son corps, ce qui fait qu'on prend conscience de vraiment de notre corps et de tous nos membres. Et donc c'est extrêmement intéressant pour je trouve pour le jeu et pour la création de personnages ensuite. Mais moi, être actrice sans travailler le chant, sans travailler travailler le corps, il n'y avait pas de, il y avait pas d'intérêt. Mais
à la limite, voilà, vous conseilleriez presque à tous les acteurs, les actrices de prendre des cours de chant, de prendre des cours de mime, d'expression corporelle, de danse.
Ah, mais
la
bien
danse,
sûr,
par exemple, parce que la danse
qu'en
fait
France,
partie de ça.
C'est d'ailleurs très très limité. On est chanteur, on chante. On est acteur, on joue la comédie. On est danseur, on danse. Et je trouve que c'est un tout. Des bons acteurs et les bons artistes, c'est ceux qui réussissent à mêler un peu tout ça. Après, même un personnage très simple qui va être un peu plus raide ou un peu plus souple ou un peu une démarche, d'avoir fait du mime, je trouve que ça aide beaucoup. Ou de la danse même, parce qu'on se... comme disait Leïla, c'est une manière de... On apprend aussi à se lâcher.
Et pour le coup, est-ce que vous considérez que celles qui ne font pas cette démarche sont des quiches?
Non, mais je trouve qu'elles ont un instrument au moins qui leur empêche de découvrir certaines choses d'elles-mêmes. Même.
Est-ce que le chant permet de placer sa voix, permet d'économiser ses cordes vocales, de mieux porter sa voix lorsqu'on est au théâtre?
Le chant, c'est une mise à nu. Moi, quand j'avais rencontré une prof de chant assez tard, d'ailleurs... elle s'était rendue compte que j'avais gardé cette petite voix.
Que vous n'avez plus du tout maintenant.
Les moments où j'étais le plus timide, hein, j'ai une voix assez aiguë. Là, oui. Vous vous compte, et il y a des moments où je l'ai beaucoup moins. Et ça dénote énormément de traits de personnalité, du passé, de ce que vous avez lâché, de ce que vous n'avez pas lâché.
Ah, mais c'est carrément, c'est une psychanalyse pour vous, ce chant.
Mais bien sûr, le chant, le théâtre, c'est des vraies mises à nu. Et c'est pour ça que je trouve ça extrêmement intéressant. Et c'est un travail qui se fait sur toute une vie. Donc oui, je trouve que c'est important.
Et vous continuez d'avoir des coachs vocaux ou d'expression corporelle?
Non,
c'est, pour votre travail?
C'est par des périodes où je sens que j'ai besoin de dépasser un cap.
Ouais.
Et ben je le fais et puis.
Très bien. Revenons à Leïla Slimani. Quelle activité apprécie-t-elle de faire en fin de matinée pour se déstresser?
La baston.
En groupe.
Alors ça c'est plutôt le soir. Non, là je parle de fin de matinée.
Manger.
C'est un sport. Fin de matinée, c'est pas un sport, non. On revient aux arts à nouveau. Ouais. C'est
peindre. Puzzle.
Non.
Regarder Motus.
Non.
Fin de matinée.
Fin de matinée, ouais.
Regardez Nagui sur France 2.
Et c'est assez. Non, fin de matinée. Là, non. À 11h normalement.
Écoute l'émission.
Elle est où à 11h?
Elle est chez elle, elle écoute la bande originale.
Non, il y a peut-être.
Non. Imagine, les enfants sont à l'école, ouais. Son mari est occupé, elle est tranquille.
Écoute de la musique.
Qu'est-ce qu'elle fait? Alors, c'est pas de la musique, mais c'est.
Elle écoute un livre. Elle écoute les voisins, c'est
pas. Elle écoute un livre.
Méditation,
un
livre.
Non. Elle se laisse emporter par une histoire, oui, mais.
Ah.
C'est ni un livre, ni une musique.
Un conte?
Ça pourrait être un conte, mais.
Une histoire, ni un livre, ni un disque, ça
se.
Comédie musicale? Non?
Ça pourrait être.
Je sais.
Elle écoute les oiseaux. Elle écoute dehors. Aussi, elle écoute le bruit à la fenêtre.
Ah, elle achète les CD chez Nature et Découverte. Le vent, 3 heures de vent.
Bien joué. Vous n'avez pas trouvé.
C'est quoi?
Elle va au cinéma. À 11h. Non, c'est marrant. Alors, voyez, chacun est constitué.
Séances.
C'est vrai?
Ah,
moi, je préfère le soir. Moi, je préfère 22h.
Il y a un petit groupe de dames retraitées qui sont toutes là, qui disent: oh, tu sais que Hervé est vraiment très malade. Je crois qu'il ne reviendra plus au cinéma.
Oh, c'est toujours la même salle,
ouais,
le même multiplex.
Elles ont toutes des histoires entre elles et tout. Ouais. Et parfois, je suis toute seule. Et là, je suis très, très stressée. En général, j'envoie un texto à des amis pour leur dire: je suis dans telle salle de tel cinéma. Si vous n'avez pas de nouvelles dans 2 heures, s'il vous plaît, faites une enquête.
Et ça veut dire que ce film ne va pas marcher?
Non, mais voilà. Non, mais ça m'arrive d'être toute seule. Ouais. J'ai vu Nymphomaniaque toute seule quand même en mois de novembre, oui. À 10h du mat. Je peux vous dire que c'était.
Et en milieu de séance, Hervé est arrivé.
Ah ouais, et vous choisissez les films en fonction des critiques,
voir,
du bouche-à-oreille?
Ouais, j'ai des cinémas où en général la programmation me plaît et j'essaye tout. Franchement, j'essaye tout. Pas tellement les blockbusters et tout parce que c'est pas.
Mais vous n'y allez pas avec une copine ou un copain,
non,
vous y allez seul.
Non, seul.
Et elle retrouve peut-être des dames.
Non, mais j'ai pas beaucoup de copains, copines qui peuvent aller au cinéma.
On va s'arranger.
À 11h.
Oui, c'est ça. C'est l'horaire,
ouais,
assez particulier. Allez, dernière question sur Sarah Giraudeau. C'est pourtant un passage obligé, régulier, fréquent dans son métier, mais elle déteste ça.
La douche.
Dans son métier.
Casting.
Exactement. Guillermo.
Merci.
Ah ouais, non, tu es impressionné, Guillermo. Tu es impressionné sur ce coup-là.
J'en reviens pas que j'ai applaudi Guillermo.
Mais tu l'applaudis pas d'ailleurs.
Ah oui, non, c'est ça.
La dernière.
Quand même,
ne pas aimer les castings. Alors j'imagine que maintenant c'est fini, c'est quelque chose qui n'a plus lieu d'exister.
Oui, ça va maintenant.
Voilà, vous êtes Sarah Giraudeau, c'est pas la peine de passer un casting. Mais au début, vous
n'êtes. Si, j'en passe aussi encore.
Bah, les réalisateurs savent qui vous êtes et ce dont vous êtes capable.
Non, ils se projettent pas.
Mais travailler avec des bons réalisateurs à ce moment-là.
Bien sûr, non, mais. Non, même les bons réalisateurs, ils ont besoin d'avoir de. Oui, de. de voir
de se rassurer.
Ça va avec leur langue, avec leur texte, avec de se rassurer, de non, c'est très difficile, je pense, pour certains de se projeter, puis d'autres qui voilà, où c'est sans casting, mais
qu'est-ce que vous n'aimez pas dans qu'est-ce que vous n'aimez pas dans le casting, c'est la quand on n'en fait pas, enfin je sais pas, si vous en avez fait vous, Tom et Guillermo.
Moi je n'en ai pas encore fait, mais j'ai pas du tout envie d'en faire, quoi, vraiment.
Ah, c'est
horrible, je trouve ça vraiment atroce comme concept.
Quoi, on est à la queue leu-leu avec
ces
photos. C'est-à-dire
que mettons à, je sais pas, à 10h40, tu vas dans une salle d'attente où il y a personne, tu sais pas si tu dois frapper à la porte, si le mec est déjà en casting avec quelqu'un d'autre avant. La porte s'ouvre, tu as 3 minutes, tu t'installes dans une pièce blanche, tu as une pauvre chaise, un caméscope pourri en face de toi, tu as pris ton texte cœur, tu dois le faire 2-3 fois et puis roule ma poule, allez on vous rappelle et voilà.
Et on vous rappelle pas.
Je trouve c'est très violent.
Ça dépend,
parce qu'il y a des fois où tu peux réussir un casting. Mais
quand il est raté, est-ce qu'ils ont quand même la politesse d'appeler en disant finalement c'est pas vous qui êtes pris?
C'est variable, mais ils appellent l'agent. Ils appellent l'agent.
Ouais. Cette description correspond à ce que vous n'aimez pas aussi ou c'est
oui,
différent pour
je
vous?
Je trouve que oui. Enfin, il y a quelque chose d'assez déshumanisant alors que dans le casting. Alors qu'on fait un métier où c'est tout l'inverse.
Ouais.
Donc il y a quelque chose de très très... Et puis souvent on a un regard sur vous qui n'est pas du tout le bon. C'est très étrange.
Mais est-ce que c'est l'occasion pour vous de préparer le personnage pour lequel on vous demande de jouer, c'est-à-dire d'arriver avec
peut-être pas le costume? Ah non, au départ vous préparez, puis à un moment vous préparez plus rien.
Non mais je veux dire, est-ce que vous arrivez avec une perruque, avec le costume d'époque, s'il s'agit d'un film des années 30, est-ce que vous faites un effort vestimentaire ou capillaire pour séduire?
Bah, au départ, oui. Et puis après, on se sent ridicule et on se dit, mais de toute façon, ils auront envie de voir ce qu'ils ont envie de voir. Donc, et ça, on est absolument pas maître de ça. C'est ça qui m'a beaucoup surpris au départ au cinéma. Au théâtre, on est très maître de ce qu'on dégage, qu'il y a quelque chose de très direct et de très, au cinéma, on n'est pas maître. On a envie d'une image de quelque chose. On prend des détails. Où tout d'un coup on les met pour le fond alors que ça reste des détails, une petite voix, on se dit bah, elle est toute fragile, on va souffler dessus, elle va tomber. Et en fait une personnalité c'est beaucoup plus dense, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc je trouve que j'en étais réduite très très vite à ce petit oiseau qui a sa petite voix et ils avaient envie de voir
de sa branche, ouais.
À chaque fois autre chose, ce que je n'étais pas.
Et
donc,
c'est aussi, comment dirais-je, gênant, troublant que d'avoir un directeur de casting ou un réalisateur qui vous demande de pleurer sur
Ah bah c'est pareil, les castings pour faire des pieds et des mains, ce que vous ne ferez jamais en tournage. C'est-à-dire qu'en l'espace de 5 minutes, il faut que vous pleuriez, qu'on voit votre joie, qu'on vous voit gueuler, qu'on vous voit en même temps être doux. C'est-à-dire qu'ils ont envie de tout voir en très peu de temps. Et ça, c'est un stress monumental parce que personne ne peut y arriver. Donc à la limite, on va pouvoir faire ressortir une ou deux choses, mais le problème c'est d'essayer de tout faire. Et c'est là où beaucoup de mauvais casting, c'est qu'au lieu de voir une ligne, on va demander quelque chose plutôt de très simple, et là on va pouvoir voir vraiment l'acteur, parce que si on le parasite pas avec plein d'informations, où il pourra pas les montrer en fait, il pourra pas se délivrer. Et si c'est très simple, là au moins le réalisateur, je pense, peut voir plus la personnalité de quelqu'un. Mais les castings, ils veulent vous voir faire tout en 10 minutes, et ça c'est pas possible.
Vous avez l'air d'accord, Leïla Slimani, avec ce que dit Sarah Giraudeau, c'est-à-dire vous avez assisté au casting par exemple?
J'en ai passé plein aussi.
Ah aussi, d'accord.
J'en ai passé
plein. Je croyais que vous aviez arrêté avant.
Non, j'en ai passé plein. Et je détestais ça. C'est sûrement l'une des raisons principales d'ailleurs pour lesquelles j'ai arrêté. D'abord parce que moi, même si le mot est fort pour moi, je trouvais ça très humiliant. Je sais pas, il y avait quelque chose de profondément humiliant. Il y avait une forme de rabaissement, quelque chose
où tout est rétréci et tout. Un truc à la chaîne un peu, ou dans une pièce, il y a 4-5 filles qui attendent avec leur bouc.
Faut imaginer que moi, je suis maghrébine et que je suis typée physiquement. Donc, imaginez que moi, 90% des castings que j'ai passés sont des femmes de dealers, des prostituées, des femmes de ménage, des directrices de casting qui vous expliquent, tu vois, elle est française, mais pas totalement. Elle est vachement libre, mais elle est super rebelle. Et puis, tu vois, elle est un peu sauvage. Est-ce que tu peux jouer ça un peu, tu vois, la sauvagerie du bled, tu vois, le truc vraiment?
Oh là
ah non,
là
j'ai
là
entendu
là.
Ça. Des gens
ça
qui vous disent
des
mais
indications.
Des gens qui vous disent mais pourquoi? Il y en a quand même une qui m'a dit, je suis venue à un casting, elle me dit mais enfin pourquoi t'es venue là? Il y avait pas d'arabe au 18e siècle parce que c'était un livre un truc en costume. Il n'y avait pas d'arabe au 18e siècle.
Déjà, non, vous êtes apparu au mi-19e, je crois. Les...
Voilà.
Quelqu'un qui m'a dit que
donc, en fait, vous êtes enfermé dans une espèce de case et puis vous avez l'impression que vous ne pouvez pas vous déployer. C'est atroce. Donc, ouais, moi, j'ai vraiment détesté ça.
Et vous vous rendez
ça,
compte
aussi.
Que vous ne rentrez pas dans les cases. On va s'extraire et puis quand ils se rendront compte que peut-être il y a certaines cases dans lesquelles vous pouvez rentrer, bah, ils vont revenir vers vous.
C'est fou. On se rend pas compte, nous, quand on est dans la salle de cinéma, même à 11h du matin.
Mais il y a des belles rencontres. Il y a des belles rencontres avec des directeurs de casting qui, tout d'un coup, vous soulage, vous rassure. Et là, je remercie ces personnes-là aussi.
Oui, mais pardon, si je peux me permettre, c'est quand on s'appelle Sarah Giraudeau, pas quand on est une comédienne
non,
débutante.
Non, je pense que ces personnes-là que j'ai rencontrées sont pareilles avec tout le monde.
Elles sont bienveillantes.
Elles sont bienveillantes.
Par nature.
Et c'est... Oui.
On va tester votre bienveillance aussi pendant ce festival de Deauville, parce que vous allez de l'autre côté, celui de ceux qui et celles qui vont juger. Vous faites partie du jury du 44e festival du cinéma américain de Deauville. Ça commencera le 31 août.
Après-demain.
C'est très rapide, oui. Ouais. Qu'est-ce que vous êtes encore là, mon Dieu?
Après Deauville, c'est deux heures. Hein, c'est très rapide. Depuis qu'ils ont posé des rails, je te jure, ça va très vite.
Jusqu'au 9 septembre, le jury est présidé par Sandrine Kiberlin, avec Sabine Azéma, Alex Baupin, Leïla Bekti, Stéphane Brisé, toutes les deux, donc Xavier Legrand, Pierre Savadori. J'ai l'impression que c'est un jury très féminin en majorité. C'est peut-être qu'une impression, mais j'ai l'impression que c'est très féminin.
J'ai pas compté, mais ça m'a l'air assez égalitaire.
C'est humain, ouais. C'est humain, homme, femme, peu importe. La sélection, elle, est plus féminine qu'à son ordinaire. Il y a 6 films sur 14 en compétition par des réalisatrices. Ça se prépare comment participer à un festival? D'abord, c'est du travail ou c'est un peu de détente et du plaisir de se retrouver entre amis? Sarah, Giraudeau.
Moi, ça ne se prépare absolument pas. Parce que d'ailleurs, c'est la première fois que je fais ça et je vais laisser parler l'instinct et la spectatrice plus que. Il n'y a rien à travailler. Enfin, je vois pas ce que je peux travailler.
Vous n'avez jamais jugé dans aucun festival?
Je l'ai fait dans un festival de court-métrage, mais je regardais tous les court-métrages chez moi. Et après, être jury, c'est pas un exercice normalement que j'aime beaucoup.
Pourquoi?
Mais parce que c'est assez particulier de se dire, bon, je vais pouvoir, entre guillemets, juger. Et c'est pour ça qu'il faut que je m'enlève ce mot de la tête. Mmh. Parce qu'au final, ce n'est pas juger, c'est dire ce qu'on a pensé, c'est un ressenti.
Mais c'est quand même, vous allez détruire des gens.
Vous allez reproduire le schéma que vous faisiez en casting.
Pensez-y pendant tout le festival, vous allez détruire des gens. Ça fait des morales.
Des carrières entières, des familles qui espéraient d'ailleurs la réussite de la carrière de ces
gens. Des gens qui vont renoncer à se reproduire. Parce qu'ils vont qu'un avenir, on n'aura pas d'argent. Ne fais pas cet enfant. Mais oui, Nagui, il faut le dire les choses.
Oui, non, mais t'as raison. Merci. Faut les préciser.
Non, c'est un boulot parce qu'il faut être présent et vraiment regarder les films très très. De bien les regarder, mais sinon, voilà.
Alors justement, est-ce que vous les regardez de votre prisme d'actrice, d'auteur, scénariste, de comédienne? Comment est-ce qu'on regarde, est-ce qu'on arrive à regarder une œuvre lorsqu'on est dans ce métier sans découper, sans détailler le qui fait quoi, la lumière, la réalisation, sans rentrer dans des considérations que le public, lui, n'aura jamais, puisqu'il regarde une œuvre dans son intérialité?
Après, je pense qu'il faut des artistes
coupé,
qui aiment un peu
plus
tout.
De réseau. On n'a plus de réseau.
Non, mais je pense qu'il faut dans un jury, il faut des artistes qui aiment un petit peu tout. Leïla, c'est une magnifique auteure, mais comme elle vous dit, elle a voulu être actrice, donc elle est intéressée par le jeu, elle est intéressée par la mise en scène, elle est intéressée par et ça, je pense que tous les gens qui y a dans le jury, c'est le même cas. C'est moi, j'ai pas regardé les films en fonction seulement de comment jouent les acteurs.
Je parle pas de votre intérêt. Je parle presque d'une déformation professionnelle. Je ne peux pas croire Sarah Giraudeau, que vous regardiez un film sans vous dire si l'actrice est juste ou pas, si elle le fait bien ou pas.
Ah bah ça c'est sûr, mais ça va pas être que en fonction de ça.
D'accord, mais vous avez cette capacité, comme un musicien est capable d'écouter une chanson et de n'entendre que ce que fait la basse ou que ce que fait la batterie. Mais
après, en même temps, je pense que quand la chanson est excellente ou quand, par exemple, dans mon cas, le livre est très bon, on oublie complètement ça. C'est-à-dire qu'on pense à ce prisme, on regarde avec ce prisme quand on n'est pas totalement pris dedans, quand on n'est pas totalement dans l'émotion. Mais en fait, dans l'émotion, je suis pas du tout une écrivaine ou un écrivain, je suis une lectrice. Et je crois que c'est ça une œuvre d'art, c'est qu'elle vous ramène juste à votre statut de lecteur, de spectateur, d'auditeur. C'est ça qui est important, c'est qu'on oublie complètement le jugement, les qualités dites extérieures, objectives.
Mais tout sera quand même subjectif et à partir de vos goûts, notamment sur le film américain. Alors quels sont vos goûts en cinéma américain?
Moi, c'est pas tellement une question de goût, parce que mes goûts sont très éclectiques et que j'aime des choses extrêmement différentes. Moi, je suis évidemment très sensible à l'histoire. Moi, c'est ça qui me plaît. Moi, j'aime la narration. Après, qui peut être une narration très étirée, c'est pas forcément une histoire avec des aventures et des péripéties, mais j'aime aime entrer dans un univers, dans une histoire, dans une tranche de vie. Et puis moi, je suis très attachée aux personnages, à la construction des personnages, des gens dont je peux imaginer qu'ils ont effectivement un passé, des traumatismes, des souvenirs, qu'ils ont une façon particulière de se déplacer, de manger. Moi, ça me touche quand on arrive vraiment à créer de la chair avec, avec du cinéma.
Alors, est-ce que l'auteur que vous êtes aime les films ou les romans où il y a une fin, une vraie fin, ou au contraire, quelque chose qui reste en suspens et à chacun d'imaginer la suite?
Ça dépend des histoires.
Je pense au Far Cohen aussi, où il y a souvent ce genre-là. C'est-à-dire que après...
Moi, j'aime bien, de manière générale, les fins ouvertes, parce que j'aime bien cette idée que qu'en réalité, le personnage est tellement fort et tellement libre qu'il continue à vivre après nous. Et moi, au fond, je crois que les œuvres d'art qui me plaisent beaucoup, c'est les œuvres qui continuent à me hanter. Je crois qu'il y a des romans que j'ai lus il y a 20 ans auxquels je continue à penser aujourd'hui, des films dont je continue à imaginer mais qu'est-ce qui s'est passé après. Ça peut être d'ailleurs des films qui sont des chefs-d'œuvre ou des comédies romantiques que j'ai pu voir et où je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé après. Mais c'est comme les contes, ils se marièrent, ils eurent beaucoup d'enfants et au fond on se demande tous et après qu'est-ce qu'ils ont fait, etc.
Le divorce, qui garde les enfants, qui garde la maison,
c'est comme camping, ça s'arrêtera jamais pour ça. T'as envie de savoir.
Sarah Giraudot, est-ce que le cinéma
c'était très très bien dit. Je pense exactement ce que Leïla vient de dire. Ça tombe bien,
c'est pas la même question. Est-ce qu'il y a une comédienne ou un acteur américain culte pour vous, qui est une référence dans son jeu, dans son savoir-faire?
C'est une question généralement où je bug, parce que
pourquoi
je n'ai absolument pas...
Vous n'aimez personne. Quand on me
j'aime beaucoup de monde, mais à chaque fois quand on me dit est-ce que tu as une
personne...
Même
deux, trois, non mais savoir dix. Non mais est-ce que vous êtes plus sensible au travail d'une...
Là par exemple cette année il va y avoir Morgan Freeman, Joaquin Phoenix, Oscar Isaac, est-ce que c'est des gens qui vont...
Joaquin.
Oui.
C'est pas vrai.
Voilà. Je crois qu'il se passe un truc. On a notre réponse.
Dans le même hôtel en plus.
Voilà, vous en avez trouvé un. J'aurais qu'il me finisse.
Voilà. Mais là, non, là on a bien compris que c'était sexuel. Ça n'a rien à voir avec le jeu.
Ah non, mais Nagui, je vous en prie.
Bah oui.
Quoi, attendez. Non.
Bon.
On dira directeur de casting, vous êtes dégueulasse.
Si, un peu.
Bah. Non, mais. non, il y en a trop. Il y en a trop pour dire. Pour dire quelle ou quelle personne je préfère.
Bon, comme chaque année, le festival décernera des Talent Awards à plusieurs acteurs récompensant leur carrière dans le cinéma américain indépendant. Les élus seront Sarah Jessica Parker, Kate Beckinsale et Jason Clarke. Ce dernier présentera Le secret des Kennedy de John Curran, projeté en ouverture du festival dans lequel il interprète Ted Kennedy. Le réalisateur français Jacques Audiard sera également présent dans la cité normande pour la projection de son nouveau film Les Frères Sisters, dont la sortie en salle est prévue le 19 septembre prochain. Vous avez déjà travaillé avec Jacques Audiard?
Non. J'aimerais beaucoup,
c'est
mais
vrai
non.
Est-ce que justement les festivals aussi, c'est l'occasion de rencontrer d'autres réalisateurs, d'autres acteurs et d'avoir des connexions qui peuvent déboucher sur une collaboration
à
venir?
S'il n'y a pas ça, je n'irai pas.
Vous irez pour le boulot, quoi.
Bah, l'intérêt... Mais non, mais c'est effectivement les rencontres humaines. Ouais. Les rencontres humaines sont quand même le plus intéressant. Après, c'est bien sûr que...
Et Mélanie Laurent sera présente aussi à Deauville pour présenter en avant-première son nouveau film Galveston, porté par la jeune Elle Fanning. Elle nous en avait parlé ici à ce micro. Et autre nouveauté de cette 44e édition, on va honorer les étoiles montantes du cinéma américain. J'ai une liste de noms, mais elle est trop importante. Vous avez qu'à aller à Deauville ou vous intéressez à ce qui se passera à Deauville. Je vais pas vous fatiguer avec tout ça.
Ouais.
C'est toujours un carton, c'est toujours un succès le festival de Deauville.
Vous voulez savoir pourquoi?
Ben oui,
parce que c'est à Deauville.
Ah.
Tu mets le festival du film américain à Montceau-les-Mines. C'est pas la même semaine, c'est vrai. Montceau-les-Mines, pour Guillermo, je sais pas si tu le vois, c'est comme Charleroi, avec un canal qui traverse la ville et la dépression.
C'est
du juste derrière.
Non, Deauville, il voit pas aussi.
Non, mais Deauville, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est chic, c'est glamour, c'est un homme et une femme, c'est les balades sur les planches avec un petit pull sur les épaules, une mini doudoune, même le 15 août. Non, mais faut se dire les choses. Deauville, c'est mignon. Il y a la mer, il y a les restos, tu manges des bulots sur le port de Trouville, tu peux aller aux voiles et aux vapeurs sans être gay et refuser d'y aller sans être homophobe. Et puis Deauville, même si c'est une petite ville, tu peux faire du shopping. Il y a toutes les boutiques. Tu peux rien acheter, mais il y a toutes les boutiques. T'en connais beaucoup des villes de 4000 habitants qui ont leur propre Louis Vuitton? C'est quand même fou. Non, mais faut se dire la vérité. Deauville, c'est une ville où il y a de l'argent. Voilà, à Deauville, la Clio, c'est une Porsche. Un carré Hermès, c'est une serviette de plage. Nagui, c'est Franck Dubosc dans Camping. Voilà. Puis là, cette semaine, c'est le festival du film américain. Et c'était le cas l'année dernière et ça va être forcément le cas dans les années à venir. Il y a de plus en plus de films qui sont faits par Netflix. Voilà. J'ai rien contre Netflix, moi aussi j'adore me coucher à 3h pour regarder ma série préférée sur un iPad, c'est pas la question, mais il y a plein de trucs que tu peux pas faire sur Netflix alors que tu peux le faire au cinéma. Ça va être déjà par exemple pour draguer, un rendez-vous amoureux au cinéma, c'est mignon, c'est romantique, on se dit que peut-être dans la pénombre, il va se passer quelque chose, tu vois. Alors que tu donnes rendez-vous à une fille chez toi pour une soirée Netflix, le premier soir, ça fait quand même gros traquenard qui va la choper direct. Et puis au cinéma, t'as une dizaine de choix au maximum pour les grands multiplex sur Netflix. Oh, l'enfer du choix. Avec ma copine, ça fait 3 jours qu'on cherche ce qu'on doit regarder dimanche dernier. C'est, au cinéma aussi, c'est en VO ou en VF, mais souvent t'as pas le choix, alors que sur Netflix, c'est l'étalage de ceux qui sont bilingues contre ceux qui ont redoublé la troisième.
Ouais, c'est vrai.
Moi, quand je regarde en français, je mets les sous-titres quand même pour être sûr. Mais c'est, puis je sais pas, mais au cinéma, il y a une ambiance. Tu t'assois, t'as du popcorn qui te gratte le cul, tu marches dans des Maltesers, t'as de l'Oasis collé sur la moquette. Ça donne du cachet malgré tout. Alors que chez toi, si t'as la moquette qui colle et des M&M's en guise de tapis d'entrée, tu passes juste pour un gros crado. D'ailleurs, le cinéma, c'est l'excuse absolue des gros. Y a qu'au cinéma où tu peux manger en toute impunité 2 litres de popcorn sans que ça choque personne. Je veux dire, personne ne mange 300 grammes de maïs en 1h30. Même le poney, il fait une pause, tu vois. Non, mais on perd le charme des contacts humains avec la VOD. Moi, j'aime louper la meilleure réplique d'un film à cause d'un mec qui tousse. J'aime les chut au début du film, tu vois. J'aime les gens qui sont déjà à la sortie de secours à peine le générique terminé. J'aime les gens qui regardent tout le générique en espérant voir leur nom, comme dans le Club Dorothée. Vraiment, faut défendre le cinéma. Alors, je sais que les gens qui disent que c'est cher, le prix d'une place de cinéma, tu te payes un mois d'abonnement à Netflix. Et c'est les mêmes gens qui ont payé un iPhone le prix d'une Clio d'occasion, donc faut relativiser. Et puis Netflix, il n'y a pas les pubs. Et c'est là où je crois que c'est l'un des principaux arguments du cinéma. Au cinéma, moi ce que je préfère, c'est les pubs locales. Le garagiste multimarque,
ouais,
le salon de coiffure Mr. Tiff, le resto chinois dans la zone industrielle avec le buffet à volonté où il y a des nems, du porc au caramel, de la pizza, des frites, des fruits de mer, du couscous, des wok et une fondue au chocolat. Alors vive le cinéma, vive le cinéma américain, vive Deauville et mademoiselle, allez manger au voile ou au vapeur de ma part. J'y étais le week-end dernier, j'ai tout mis sur la note de Nagui. Bonne émission.
Je viens de recevoir un texto anonyme. C'est moche ce que vous faites. J'ai simplement une angine.
Signé LK.
Moi, j'ai reçu un texto de Joachim Phoenix qui dit « Je t'attends avec impatience ».
Dans la suite, un homme et une femme.
Shabadabada, shabadabada. Voici l'humeur de Guillermo Guiz.
Oh yes.
Ça va les amis?
Ouais.
Bon, cet été, comme tout le monde, j'ai failli attraper le sida. Non, mais je l'ai pas eu parce que
pas,
non, mais je me protège. Moi, je porte un talisman et aussi 2 préservatifs en cuir à chaque fois. Pour... vous avez entendu que les centres de dépistage de MST, c'est vrai, ils sont pleins en sortie de vacances. On salue d'ailleurs Leïla Kadour Boudadi qui nous écoute depuis une salle d'attente. Reviens-nous plus fort, Leïla. On t'aime. Donc voilà, dans les grandes lignes, je suis quand même clean. Je le dis parce que Nagui, il veut plus boire à ma bouteille depuis qu'il croit que j'ai le DAS. Il est sympa, Nagui, mais c'est pas Clémentine. C'est la vie quand même. Il a ses petites réticences. C'est ce qui ça fait plaisir de vous voir, patron, d'une certaine manière. Cet été, Nagui m'a envoyé un message, un seul. C'était pendant que la Belgique se faisait défoncer par le Japon en 8e de finale. Je vois un message Nagui. Je me dis, bon, il va demander de l'argent comme d'habitude. Etc. Mais non, en fait, à 2-0 pour le Japon, il m'envoie alors ton équipe de merde.
C'est vrai?
J'ai dû sortir le vieux dossier. Direct. Et toi, Giscard, Bokassa, Lydia Martin. Vraiment, direct le vieux dossier. Donc c'était chaud pour nous, la Coupe du Monde en Belgique. Vraiment, je me rappelle quand on vous avait laissé passer en finale. Là, on avait un barbecue tout le dimanche, donc c'était plus compliqué de faire, donc on n'a pas été. Mais ça a été une espèce de déferlement. Après la Belgique, les Belges ils ont le seum, ils ont le troll seum, etc. Ça y est, votre guide spirituel c'est Jules maintenant. Ça y est, c'est réglé. Maître Guim, c'est ça, faut ressortir pivot de la naphtaline parce qu'il peut encore servir, je vous le dis. Ceci dit, après la Coupe du Monde, franchement, après la demi-finale, j'avais vraiment le seum.
D'accord,
j'avais tellement le seum contre la France. On m'aurait dit, franchement, le 16 juillet, on m'aurait dit, il y a une bombe à neutrons qui vient de raser Paris. J'aurais fait, allez, sérieux, quelqu'un veut jouer au jeu de loi. Vraiment, j'aurais dit ça. Du coup, je suis parti à Ibiza pour oublier que j'avais le seum. Vraiment, je suis parti à Ibiza. C'était canon, Ibiza. J'ai croisé Daniel Morin là-bas sur la partie la plus hippie de l'île évidentielle où on respecte trop l'eau pour la gaspiller dans des douches, etc. Cette année, j'arrête de faire des blagues sur Daniel Morin. Tu sais, Louis XIV, il s'est lavé une fois par an. Franchement, personne ne s'est passé crème, personne ne l'emmerde avec ça. On oublie souvent que Daniel, c'est surtout un auteur. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre à Ibiza? Ah oui, c'est vrai, j'ai passé 4 jours avec Nicolas Hulot, on a fait du jet ski ensemble avec son dauphin. Il a un dauphin dès l'époque où il faisait Ushuaïa, je m'en rappelle. Et je me rappelle, je lui dis, Nicolas, viens, on est pas bien ici, on arrête de travailler. Il m'a fait, écoute, mec, moi je suis blindé, j'ai les moyens d'arrêter de travailler, mets-toi. Du coup, je suis de retour pour une nouvelle saison. Merci à France Inter de me refaire confiance, alors que franchement, J'ai plus rien d'original à dire depuis octobre 2016. Ah si, j'ai un truc. Vous vous rendez compte que 1% des gens les plus riches possèdent 50% des instagrammeuses. Voilà. C'était mon coup de gueule de la saison. Rendez-nous les instagrammeuses à la classe moyenne, merde. Sinon après nous on est obligé de ken avec des profs de latin et tout ça. Je me suis politisé, vous avez vu Ibiza.
Je vois, ouais, t'es engagé.
Pour le reste de cette saison, quelques changements en ce qui me concerne. Dorénavant, je serai là le mercredi, entre Agnès Surstel le mardi et Marina Rollman.
C'est bien entre deux femmes.
Et moi, je peux vous dire qu'être entre deux gonzesses. Donc voilà, j'ai un nouveau co-auteur qui va m'aider un peu sur l'efficacité des blagues. Ça va réveiller les gens dans le public. L'année passée, il y a quand même 9 décès pendant mes interventions. Et on peut pas tout mettre sur le dos du quatrième âge non plus. De toute façon, 25 blagues par chronique, 40 chroniques par an, ça fait 1000 blagues, à écrire tout seul. Et je peux pas faire tout seul. Alors que je peux vous dire, il y a plein de trucs que je fais mieux tout seul. Et je tiens à dire à texte que je pourrais pas utiliser toutes ces blagues non plus. C'est aussi, c'était vraiment par amitié. T'aurais été 30 euros texte, mais ça, c'est le tarif pour les co-auteurs. Mais je veux un truc plus politique la prochaine fois-ci. Sinon, je vais essayer de parler moins vite. Si, ça va être compliqué. Je vais essayer d'articuler au moins 6 mots sur 10, ça va être compliqué aussi, et de moins me dénigrer. Je me dénigre.
Ah, c'est impossible.
C'est vrai, alors que par exemple, moi je suis considéré comme quelqu'un qui transpire peu, j'ai aussi des qualités. c'est vrai, je suis un mec cool. Du coup, à Ibiza, j'ai repris confiance, j'ai évité le sida et j'ai même plus le seum. Allez, bonne émission, les amis, ça fait plaisir d'être.
Merci, Guillaume. France Inter, Nadi, la bande originale. La bande originale avec Leila Slimani et Sarah Giraudeau qui, juste avant de partir pour le 44e Festival du cinéma américain de Deauville où elles seront membres du jury, passent par ce studio d'Inter pour nous parler de la bande originale, justement de leur vie, Leila, dans les années 90. Écoutez. Notorious Big. Qui vous fait découvrir la musique d'ailleurs? Est-ce que vous avez des amis, des frangins? Vous écoutez la radio?
Non, des vendeurs de la Médina qui vendaient les petits DVD piratés. Donc ça, c'est comme ça que j'ai découvert la musique.
Des DVD ou des CD?
Non, des CD, ouais, des CD. D'accord. Piratés qu'on achetait parce que c'était très difficile de trouver des trucs au Maroc dans les années 90. Donc on se débrouillait avec ce qu'on pouvait.
Mais pourquoi aller sur Notorious Big par exemple?
Au Maroc, le rap avait beaucoup de succès, le hip-hop américain, et puis ces mecs-là, ces grands blacks et tout, ça nous donnait de la force, quoi. On voulait tous être comme eux.
Est-ce que les textes?
Mort jeune, c'est ça que vous vouliez?
Ouais, c'est ça, d'accord. Non mais franchement, ouais, on voulait mourir jeune, on voulait brûler la vie par les deux bouts, enfin ce genre de trucs.
Et comprendre les paroles?
Après j'ai pris des cours d'anglais.
Ça arrivait plus tard.
Ouais, c'est arrivé plus tard, mais à cette époque-là, c'était plutôt danser, sortir, faire la fête.
Est-ce qu'il y a des paroles de chansons qui, une fois que vous les avez comprises, vous ont déçu ou au contraire
parfois j'essaye d'oublier que j'ai compris les paroles surtout. Et je me contente de chanter en rythme. Voilà.
Quand t'écoutes bien, ne me quitte pas, c'est de la merde. Hein.
Et oubladi oublada.
Quand t'écoutes bien, tu vois.
Votre papa travaillait dans le milieu de la banque?
Ouais, et avant dans le foot. Mon père était président de la Fédération de foot du Maroc.
Carrément.
Ouais, bien sûr, il a gagné la Coupe d'Afrique. Mon père, la seule fois où le Maroc l'a gagné. Donc mon père, c'était un grand, grand passionné de foot. Donc il a eu une grande carrière dans le foot et ensuite dans la banque.
Il vous a transmis le goût d'argent ou le goût du foot?
Il m'a transmis surtout le goût du foot.
Surtout le goût du foot. Ouais. Vous avez suivi la Coupe du Monde ou pas?
Bien sûr.
Et on est d'accord, les Belges, on les a humiliés.
Je suis allée à Ibiza tranquille après, moi.
Est-ce que les livres avaient quand même leur place à la maison quand vous étiez?
Oui, bien sûr, ils avaient toute leur place. Mon père a arrêté de travailler quand j'étais assez jeune. Il était toujours assis au même endroit dans le salon et puis il avait des piles de livres devant lui, mais des énormes piles. Il lisait, je sais pas, entre 1 et 2 livres par jour.
Wow.
Donc, il lisait vraiment énormément tout le temps. Et puis mon père, il nous obligeait à faire des fiches. Donc chaque fois qu'on lisait un livre, il fallait faire la fiche du livre qu'on avait lu.
C'était quoi, pour prouver que vous l'aviez lu?
Non, pas du tout, on pouvait faire
ensemble.
Ce qu'on voulait. On pouvait écrire juste une phrase en disant j'ai détesté ou au contraire j'ai adoré ce passage. Mais il fallait garder une petite trace écrite. Et à l'époque ça m'embêtait beaucoup. Et maintenant quand j'y pense, c'est génial parce que je retrouve des fiches de livres que j'ai lus dans les années 90.
Mais c'est génial
incroyable,
comme idée.
Et maintenant je vais essayer de faire.
Est-ce
ça
que vous
avec
la reproduisez
mes enfants
avec ce que j'allais dire? Ouais. Ah, c'est une super idée. Quant à vous, Sarah Giraudeau, vous écoutiez dans ces années 90.
C'est deux personnalités différentes, quand même.
C'est deux salles, deux ambiances, quoi. C'est le Macumba à Melun, quoi.
C'est pas Snoop Dogg, c'est Chanson pour mon chien.
C'est quoi?
C'est Henri Dess.
Ah, Henri Dess.
Il s'en met plein.
Ceci dit, c'est en boîte. Il y a un truc. Un vrai truc.
Ça dépend de l'heure.
Mais là, c'est quand il rallume les lumières.
À quel... Moi, j'ai couché avec un videur en écoutant ça.
Non, mais on est d'accord. Mais justement, quelles images reviennent quand vous entendez Henri Dess?
La peur.
Eh ben, maintenant que mes enfants l'écoutent, je retrouve ce que je ressentais quand j'étais petite, où je l'ai énormément écouté, et que j'aime bien ces artistes qui ont consacré toute leur vie et toute leur carrière aux enfants. Donc il a créé je ne sais pas combien de chansons, ah ouais, ce monsieur, pour les enfants.
Il a beaucoup d'autodérision d'ailleurs.
Il a toujours resté très très simple, et je trouvais qu'à chaque fois ces petites histoires étaient marchaient très très bien. Et voilà, moi ça, j'aime bien les hommes ou les gens qui ont passé toute une vie à être au service des enfants.
On va pas assez dans ta ratata.
C'est forcément. c'est forcément. Non. Parce qu'il est beaucoup en tournée, en concert.
Ah, c'est ça, sinon.
C'est forcément papa-maman qui font la programmation musicale quand on a 4-5 ans.
La programmation musicale, c'était Cat Stevens et Henri Dess. Je me souviens de ces deux artistes que j'écoutais à n'en plus finir. Mais c'était nous qui le demandions, à un moment donné, ils n'en pouvaient plus. Hein. Mais
c'est tourné en boucle à la maison.
C'est cassette d'Henri Dess et de Cat Stevens.
Vous avez dit dans une interview, c'est absolument pas surprenant, que vous étiez en admiration devant l'incroyable charisme de votre papa.
Ah ben certainement, oui.
Mais alors, quand on est une enfant, d'abord, est-ce qu'on se rend compte de qui est son papa, si connu soit-il, ou on s'en rend pas compte? À quel moment vous êtes d'abord rendu compte que votre maman et votre papa étaient des personnalités connues, c'est-à-dire Annie Dupéré et Bernard Giraudot?
Ça, c'était un petit peu plus tard. On s'en rend pas compte quand on est petit. On s'en rend compte qu'au moment où on marche dans la rue, et là, on se dit, mais qu'est-ce que les gens sont irrespectueux? Pourquoi elle regarde comme ça, à même pas un mètre, enfin, c'est gênant. Mais donc j'étais très gênée, absolument pas eux, mais c'est là où je me suis commencé à me rendre compte qu'on ne pouvait pas avoir vraiment une vie tout à fait normale. Mais sinon, avant, non, on s'en rend absolument pas compte, mais le charisme de mon papa est passé beaucoup par une peur. Au départ, quand quelqu'un a énormément de charisme, et en plus quand c'est son père, bah il y a quelque chose, je l'admirais énormément, et en même temps j'en avais très très peur.
De l'autorité paternelle, de le décevoir.
De l'autorité paternelle, de la personnalité qu'il avait dans assez sanguine et en même temps extrêmement intelligente. Et j'étais très fascinée par ses personnalités. Ça a eu du mal à me quitter dans mes premières histoires d'amour d'ailleurs. Ces personnalités qui sont des personnalités de feu et qui sont extrêmement intelligentes et en même temps extrêmement qui peuvent en devenir extrêmement bêtes dans leur côté sanguin. Et donc du coup c'est une contradiction qui est très très forte parce que quand on est enfant on a une image d'un feu qui peut prendre très très vite et qui en même temps a une douceur et en même temps extrêmement intelligent, donc à chaque fois tout ce qu'il vous dit c'est mine à tellement raison.
Le bon mauvais côté ou le bon et le mauvais côté du feu, c'est-à-dire ça peut faire du bien, ça peut être
ça
chaleureux
peut
et ça peut brûler
et ça
peut faire
mais
du mal.
Nagui, philosophe pyromane.
Non mais et pourtant à 11 ans vous avez...
Non mais c'est des personnalités qui sont très très fortes, donc enfants en plus on les retient beaucoup.
Mais ça influence forcément sur la vie, c'est ce que vous avez dit, que ce soit dans les amours ou dans les relations professionnelles avec d'autres. Vous avez travaillé, enfin il vous a fait tourner dans un film qu'il a réalisé, vous aviez 11 ans. Là c'était une évidence pour lui de vous faire jouer dans le film. C'était une inquiétude pour vous de ne pas le décevoir,
Non, parce que je crois que j'avais 10 ans, enfin, j'étais encore trop jeune pour que ce soit une inquiétude. Moi je voyais ça avec mes yeux surpris d'enfant et
de déguisement
tout.
D'avoir une nouvelle robe, une nouvelle coiffure et...
Oui, on s'occupe de vous, on vous frise les cheveux, on vous chouchoute jusqu'au bout des ongles alors qu'on est encore...
T'imagines ça, Daniel,
petit.
Pour toi
faire friser les cheveux, ouais.
C'est moche que tu fais, Nagui.
Vous aimiez l'ambiance d'un tournage.
Et voilà, c'est là où j'ai découvert l'ambiance d'un tournage que j'ai profondément aimé, une espèce de petite
pourtant,
fourmilière.
On a l'impression que c'est un endroit où on attend beaucoup, il se passe rien et c'est que la table du catering qui qui sert non, d'animation dans la journée.
Non, c'est vraiment une petite fourmilière où qui il y a énormément de monde et en même temps c'est très calme. Chacun fait son travail dans ce qu'il a à faire et en même temps tout ça se côtoie et puis au final on arrive avec à créer des scènes, à créer vraiment des univers avec tout ce petit monde qui grouille autour. Je trouvais ça génial.
Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre vie d'actrice?
Dans ma vie d'actrice?
Ouais.
L'argent.
Non, parce que vous vouliez être styliste, vous avez même dit que vous avez vécu l'enfer pendant votre adolescence.
À l'adolescence, oui, non, mais dans ma vie d'actrice, je trouve que c'est un métier magnifique parce que c'est une exploration de l'humain. Encore une fois, on s'étonne, on étonne les autres nous étonnent et on vit toujours des nouvelles. C'est un métier qui permet d'avoir une vie extrêmement surprenante. Et ça, c'est génial. Les métiers où ce serait la même chose tous les jours, ce serait ma pire prison, je pense.
En 2007-2008, Leila Slimani, c'est Amy Winehouse que vous écoutiez avec Back to Black. Amy Winehouse, c'est un sujet de roman aussi, cette vie.
Ouais, c'est
cette
pour ça qu'elle me fascinait, cette femme. Et c'est drôle parce que en vous envoyant les musiques hier, j'ai repensé à elle et je me suis dit qu'il y avait aussi quelque chose d'assez incroyable. C'est une femme à la fois dans cet album et dans sa vie qui affichait une très grande mélancolie, un grand mal-être, qui disait « je retourne vers celui qui me fait du mal, je me mets avec un homme qui se drogue, avec qui on se dispute, qui me frappe ». Et quand on pense aujourd'hui...
Et qui l'a fait tomber elle aussi dans l'alcool et dans la drogue.
Ouais, bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai que quand on pense aujourd'hui, il y a quand même tellement d'artistes, notamment de chanteurs qui passent leur temps à vous instagrammer leur quinoa, leur avocat, leur truc, et comme ils sont heureux, et comme tout est merveilleux, et comme leurs enfants sont super... Je trouve que c'est très rare des gens en fait qui affichent à ce point le fait d'être mal, quoi, de cette espèce de malheur, de mélancolie presque métaphysique. Et c'est une femme qui m'avait bouleversée pour ça, parce qu'on est dans une société qui est très dure aussi avec les gens qui affichent ce mal-être.
D'accord, mais enfin, le mal-être qui va à l'excès jusqu'à se donner la mort, enfin, c'est-à-dire à s'abîmer à ce point-là, à tomber dans la drogue et l'alcool, on peut pas non plus faire l'apologie.
Mais j'en fais pas l'apologie, mais je dis on n'est pas obligé de ne pas vouloir le voir. On peut pas dire, eh ben ça, tu dois te mettre à l'écart parce qu'on ne veut voir que ce qui est,
la frontière entre.
Je trouve que cette noirceur, elle était fascinante. Elle a été aussi un moment un moteur créatif. C'est terrible à dire, mais cette noirceur-là, elle existe.
Alors j'avais peur de ça justement. J'avais peur que certains vous écoutent en comprenant, il faut prendre de la drogue ou de l'alcool.
Mais
pour
pas du tout. Mais je dis qu'on peut prendre de la drogue et de l'alcool et être un grand artiste.
Ça aide quand même la drogue.
Un grand artiste. Et cette femme, c'est ce qu'elle raconte dans son album. Elle raconte qu'elle boit trop. Elle raconte qu'elle
est
amoureuse de la mauvaise personne.
Parce que vous pensez qu'elle n'aurait pas été une grande artiste si...
Mais ça, j'en sais rien. Mais je dis que ce qu'elle raconte là-dessus, c'est magnifique. Et c'est peut-être pas politiquement correct. C'est pas moral. C'est pas beau. C'est pas bon pour la santé. Mais c'est magnifique.
Vous avez été...
Toujours avec modération, hein, bien sûr. Hein.
La coke ?
La cocaïne, l'héroïne.
Vous avez été journaliste ?
Ouais.
Dans ces années 2007-2008. Vous choisissiez vos sujets ou c'est le rédacteur en chef qui vous disait sur quoi il fallait ?
Non, c'est le rédacteur en chef. Non, on ne choisit pas si souvent ces sujets. Puis moi, j'étais spécialiste du Maghreb, Afrique de l'Ouest et sujets de société. Donc j'avais quand même déjà des sujets un petit peu délimités. Et puis vous êtes aussi obligé de suivre l'actualité. Et puis moi, j'ai eu de la chance. J'ai beaucoup travaillé à l'époque, enfin juste avant les révolutions arabes et pendant. Donc, j'avais pas vraiment besoin de choisir mes sujets. Ils venaient à moi de manière assez naturelle. J'ai eu beaucoup de chance.
C'est à ce moment-là que vous avez rencontré votre mari ?
Oui, tout à fait.
Dans un bar, hein, pour revenir à Amy Winehouse. et qui, comme par hasard, exerce le même métier que votre papa, banquier.
Exactement, comme par hasard. Voilà.
Pas besoin d'être psy hein, pour faire des...
Non, bah non, ni de chant, ni de rien.
On ne se juge pas, hein, mais là, on s'observe.
Sarah Giraudeau...
Si on prenait un peu de drogue, là, puisqu'on est bien...
Sarah, elle, écoutait à ce moment-là Björk. Une artiste qui réunit tout ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire le chant, l'expression corporelle, le jeu, l'incarnation, c'est une
Puis une folie, une noirceur multiple, aussi. Ouais. Mais je suis très très sensible effectivement aux artistes qui ont une mélancolie, une noirceur. Elle s'en est très très bien sortie.
Et qui peut être pris pour une espèce prise pour une espèce de folie aussi par moment.
Oui, effectivement. Ouais. Pour moi, c'était une découverte incroyable. Je la trouvais magnifique et physiquement et sa voix était. Je trouvais que c'était une artiste extrêmement particulière et qui en même temps a fait plein de choses que j'aime pas non plus, mais qui au moins a exploré. Ça a été vraiment une exploratrice du champ.
Il n'y a pas deux disques qui se ressemblent, c'est sûr. Et pourtant, c'est du Björk.
C'est-à-dire
qu'elle a sa patte. La musique vous sert dans votre travail pour incarner un personnage. Vous faites des playlists en fonction de l'état d'esprit dans lequel vous êtes.
Souvent, c'est un artiste qui va correspondre à un projet, à un type de personnage. Je les choisis pas, ça arrive comme ça, mais la musique est extrêmement présente, je ne pense pas que chez moi, mais dans ma vie, oui.
Il y en a qui ont besoin du silence pour se concentrer et travailler, d'autres qui ont besoin de musique pour se
motiver. Non, la musique pour moi est profondément...
est essentielle. Nous allons revenir au Festival de Deauville, cette 44e édition avec Xavier Lherpeur. Vous êtes un peu chez vous, Xavier, puisque
Mais je suis très bien d'ailleurs. Merci de m'avoir invité.
Vous travaillez également pour Le Masque et la Plume, c'est ce que je voulais dire. Vous intervenez régulièrement chez eux, critique de cinéma français en règle générale. Le Festival de Deauville, d'ailleurs, vous le voyez comme étant un rendez-vous à marché, un rendez-vous commercial, une espèce d'énorme bande-annonce pour des films qui vont sortir, ou c'est un rendez-vous essentiel du cinéma américain ?
Ça a été le cas il y a encore une quinzaine d'années, c'était effectivement l'outil de promotion du cinéma américain sur le territoire français à une période stratégique, le mois de septembre, les Oscars ne sont pas loin aux États-Unis, on commence à sortir les films qu'on va essayer de glisser dans les nominations, donc oui c'était là. Le cinéma américain a tellement changé ces 15 dernières années que maintenant le Festival du cinéma américain de Deauville, c'est au contraire la pulsation, les nouveaux auteurs, la jeunesse, Sundance, l'indépendance, ça fronde, ça se révolte. A fortiori, effectivement, actuellement. Mais c'est un cinéma beaucoup plus jeune, beaucoup plus moteur de nouvelles idées, beaucoup plus moteur de nouvelles envies de faire du cinéma. C'est à nouveau le nouvel Hollywood. D'ailleurs, il rend hommage cette année au nouvel Hollywood. Et c'est une bonne idée. Et c'est un peu à ça que ressemble actuellement le Festival du cinéma.
C'est quoi le nouvel Hollywood? C'est l'après Weinstein?
C'est le nouvel Hollywood. Le nouvel Hollywood, dans les années 70, c'est Coppola et tous ses petits camarades qui prennent le pouvoir, qui font des films différemment. Aujourd'hui, effectivement, on va être obligé de faire des films différemment. Après Weinstein, après tout ce qui a secoué le milieu du cinéma, on a découvert les zones d'ombre qu'on feignait de ne pas connaître. Il y avait quand même une hypocrisie absolument manifeste sur la chose. On savait, mais on se disait que voilà, l'artistique et l'économique allaient si bien ensemble qu'on n'allait pas ruer dans les brancards. Oui, il va falloir réinventer le cinéma, mais il se réinvente d'ailleurs. Parmi les 14 films, ceux que j'ai vus sont absolument passionnants, formidables, attestent de quelque chose, réinventent des choses, mais avec une modestie. C'est-à-dire qu'ils prennent pas le pouvoir au sens de « Ah, on n'a jamais fait ça avant ». Ils savent qu'on a tout fait dans le cinéma. Mais ils regardent ce qui se fait actuellement. Un cinéma très contemporain, très féminin, très sensible à toutes les mutations politiques, sociétales, américaines, et puis universel. Donc c'est un cinéma passionnant.
Vous avez vu les 14 films qui sont en compétition ?
Non, hélas pas, je n'en ai vu que 3 qui sont déjà absolument très recommandables.
Comme ?
Par exemple, j'adore Thunder Road de Tim Jennings, qui est un film que ce jeune comédien, scénariste, metteur en scène a porté entièrement sur ses épaules, et c'est époustouflant à travers...
Sans passer par des majors compagnies de production ?
Pas du tout, vient surtout de Sundance, c'est l'histoire d'un flic totalement parano, totalement désœuvré, totalement solitaire, et en même temps, c'est juste une métaphore de l'Amérique contemporaine, déstabilisée par tout ce qui lui arrive. J'ai vu Leave No Trace aussi, qui est un film réalisé par un jeune cinéaste, qui est le portrait bruissant d'un homme et de sa petite fille qui ont décidé de s'affranchir du monde et de se réfugier dans la forêt, où ils vivent vraiment en autarcie. Et ça dit aussi quelque chose sur ce refus du monde actuel, ce refus qui ne nous est pas laissé. C'est où ça passe, où ça casse. En gros, il y en a qui résistent à leur manière, en se rapprochant de la nature, en se rapprochant l'un de l'autre. Non, c'est un cinéma qui bruit, c'est un cinéma subtil, c'est un cinéma inventif. Il y en a 11 que je n'ai pas vu, donc je ne peux pas vous garantir que la scène sera formidable, mais les premières tendances sont très positives.
Est-ce que quand on dit cinéma américain, ça donne quoi, à part évidemment le fait que ce soit produit, joué, réalisé, tout ce qu'on veut, mais ça donne quoi comme marque? Ça donne un gage de qualité pour vous? Ça donne un gage de, au contraire, de spectacle, de...
De tout, j'allais dire que
ça veut dire quoi américain pour
Mais ça veut rien dire, on est bien d'accord. Je pourrais vous parler du cinéma japonais, ça veut rien dire non plus. C'est une géographie.
Il n'y a pas qu'un cinéma américain, il y en a plusieurs.
Non, il y en a plein en plus. On en voit finalement assez peu de ce qui est produit. On voit presque, j'allais dire, le meilleur. Donc parfois de temps en temps, on a un petit peu peur. Mais En même temps, voilà, s'il faut dire, peut-être le cinéma américain, c'est le cinéma le plus pluraliste, le plus diversifié. C'est-à-dire que c'est la promesse à la fois de blockbuster, et je suis le premier à en aimer certains, vraiment. Je n'ai rien contre les Marvel, je n'ai rien contre Mission Impossible 6, qui me passionne. Et puis, c'est un cinéma, effectivement, qui, de temps en temps, ose le cinéma indépendant, ose une autre façon de faire du cinéma. Ça fait 100 ans que ça existe dans le cinéma américain, de faire du cinéma en dehors des majors, et ça résiste. Alors, il y en a qui font des films pour espérer être repérés par la Warner. Généralement, ils se cassent la gueule, et puis il y en a qui sont vraiment des forces de résistance, et qui existent, et qui deviennent des vrais courants du cinéma américain.
On a parlé de l'horreur de l'affaire Weinstein, on peut parler de Trump un tout petit peu. Il y a un impact aussi dans la présence de Trump, dans sa politique, dans la montée du racisme. Est-ce qu'il y a ça un écho sur les œuvres d'art?
Alors, le cinéma a un temps de réaction nettement supérieur à celui de la télévision. La télévision a déjà dégainé des auteurs des séries American Horror Story l'année dernière, par exemple. Ryan Murphy était viscéralement contre l'élection de Trump et montrait la manière dont ça allait contaminer l'Amérique. Mais il y a des auteurs qui préparent déjà un tout petit peu, effectivement, cette résistance-là. Parlons de Jordan Peele, qui avait signé Get Out, ce film absolument formidable, à la fois de genre, thriller, politique, puisque la condition des Noirs, et qui vient de produire le Spike Lee, qui est sorti la semaine dernière et qui était à Cannes, et qui est un film, effectivement, sur le Ku Klux Klan, sur la résurgence. Ça a beau se passer dans les années
70. Spike Lee dit, je déclare la guerre à Donald Trump, carrément.
Et il a pas tort, il va même jusqu'à raccrocher de manière un peu opportuniste. Ça, c'est le critique qui parle les images de Charlottesville, mais le sujet est là, le sujet est pris en main. Encore une fois, le cinéma, c'est plus lourd, c'est plus long, c'est plus contraignant que la série télé, mais les auteurs et les autrices aussi, puisque les femmes sont beaucoup dans la résistance contre Trump, sont en train de fomenter leurs armes artistiques, et c'est une bonne nouvelle.
Merci Xavier Le Harper, merci mille fois, on vous retrouve dans Le Masque et la Plume, là.
On en enregistre un demain qui sera donc diffusé dimanche.
Très bien, voilà. On sera attentif. Merci
beaucoup. Jérôme Bersin serait content, merci.
C'est normal, c'est la moindre des choses. Tanguy Pastureau, ça va Tanguy?
Oui, très bien.
La page Nicolas Hulot donc est tournée.
Oui, et tant mieux parce que j'en peux plus de lire sur 400 médias différents le jeu de mots « La vacance de Monsieur Hulot ». Mais les grands gagnants de l'histoire, ce sont les chasseurs, ces gens qui sont super si on se place du point de vue des fabricants de fusils, ou pas top si on prend en compte l'opinion des sangliers.
Ça sera juste après les infos de midi. Là. C'est la bande originale, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez avec Daniel Morin, Guillermo Guéris, Tom Villa, Tanguy Pastureau, et nos invités Sarah Giraudot et Leïla Simani. Et je tiens à préciser que contrairement à toutes les rumeurs qui circulent dans Paris, Leïla Kadrboudeï n'a qu'une simple angine, mais,
mais bon,
costaud.
Carabiné.
Mais carabiné, ouais. Je pense qu'il y a quand même une gastro-derrière tout ça. Enfin, bon, elle nous reviendra, j'espère, en forme. Moi, j'ai dit quand elle veut. Daniel Morin dit quand elle peut. Mais Leïla.
Il paraît qu'elle viendra nous faire un coucou à Noël.
Symboliquement, tout le monde peut en témoigner. Le siège reste vide. Personne ne peut.
Enfin, personne ne va prendre son siège. Ça, je peux te dire.
Les bonnes de micro ne sont pas changées. Donc,
personne ne va le prendre, ce siège. L'angine, c'est contagieux.
Nous parlons de ce festival de Deauville, le 44e festival de Deauville, où Leïla Simani et Sarah Giraudot, vous serez membre du jury. Est-ce que vous êtes rencontrés avant avec les autres membres du jury, avec Sandrine Kiberlin qui sera votre présidente? Est-ce qu'il y a des dîners, il y a des pots que vous prenez en disant, bon, alors comment?
Pas encore, je crois que ça va recommencer dans deux jours, les dîners, direct. Les pots. Ouais. Ah ouais.
Et est-ce que le planning d'un jury de festival est très serré? C'est-à-dire que vous devez voir énormément de films en très peu de temps, où il y a des conférences de presse, des rendez-vous obligatoires, ou ça reste quand même 10 jours détendus?
Je vois qu'on a 2 films par jour, et puis après d'autres séances si on veut y aller, mais qui ne sont pas en compétition.
Et qui sont payantes, je crois.
Je ne sais pas.
Leïla Simani, comment vous allez faire pour aller au cinéma et pas à
11h? Non, mais c'est parfait. Il y a un film à 11h et il y en a un deuxième à 15h, mais pour moi, c'est le rêve.
Mais il y aura d'autres
absolu.
Gens dans la salle.
Mais c'est pas grave.
Vous irez aux séances de 15h ou pas?
J'irai aux séances de 15h aussi. Non, pour moi, c'est le rêve. C'est génial.
Est-ce que, comme vous le ferez pendant ce festival, dans la vie, vous regardez tous les films en VO obligatoirement, que ce soit des films anglais, des films chinois, des films allemands, norvégiens, que sais-je? Il faut que ce soit de la VO?
Oui.
Ouais. Mais je crois qu'une fois qu'on s'est habitué, ça devient très difficile de regarder Joachim Phoenix en français ou ce genre de truc.
C'est vrai que Joachim Phoenix en chinois, tu comprends vraiment la substance. Alors, du gars.
Je suis d'accord sur l'anglais que l'on peut suivre, pas, que l'on peut comprendre et suivre quelques sous-titres si on a des problèmes de jeu de mots ou de références. Mais quand c'est des langues où on ne sait qu'on ne comprendra rien, chinois.
Ah ouais, mais ça
russe.
Fait partie de l'ambiance.
Les langues,
voilà,
c'est une ambiance de vie, c'est les moindres souffles des acteurs ou d'intonation de voix, ça crée autre chose.
Ça veut dire que vous, vous n'avez jamais doublé, par exemple?
Je crois que je pourrais pas doubler.
Vous avez déjà fait de VF d'un film? Vous avez déjà prêté votre voix?
Non. J'ai juste écouté Petit Paysan en italien, des petits bouts. C'était super bien. J'ai adoré, je trouvais ça vraiment très étonnant de voir comment un univers va pouvoir se transposer en une langue qui est un petit peu plus dynamique et tapante, on va dire. Et je trouvais ça assez drôle. Mais sinon, non.
C'est... Vous avez compris l'histoire ou peu importe?
J'ai pas tout vu, c'est juste.
Il y aura dans ces films tous les domaines, toutes les catégories possibles, imaginables, de genre, de style. Vous attendez quoi? On sait tout à l'heure, Leïla Slimani a dit avant tout l'histoire. Vous êtes attentif.
Moi, j'ai dit exactement pareil que Leïla Slimani.
La
très bien écoutée, effectivement, c'est les histoires. Les histoires, c'est des histoires, des conflits dans lequel on puisse être pleinement avec les personnages.
Ça existe au cinéma des mauvaises histoires bien jouées?
Je
remets le chronomètre. Voici Tanguy Pastureau.
La saison va être longue, il faut se préserver.
Tanguy, hier, Nicolas Hulot a repris sa liberté.
Oui, ah bon, une autre manière de dire qu'il est sans emploi. Il est actuellement en France, eh bien, 6 millions de personnes en liberté. Alors, Hulot rejoint dans la grande famille des destins brisés Larousseau, Grequick, Romy Schneider, La Paille en plastique, Maxime Brunery et Jean-Vincent Placé. Hier, il a claqué la porte, la voix chevrotante et les yeux humides. Ici, à Inter, on avait envie de le prendre dans nos bras, lui caresser le dos, descendre jusqu'aux fesses, puis par devant. Ouais. C'est alors qu'il aurait déclaré, mais enfin, que faites-vous? Et là, on aurait admis avoir tenté, profitant de son moment de faiblesse, d'explorer sa zone humide. À la biodiversité peu florissante, puisqu'il est marié depuis 2002. Il n'attrape donc pas de petites bêtes. Hulot, c'est un mec fragile, le Loana de la politique, mais sans les boobs. En tout cas, c'est ce qu'il veut faire croire, puisqu'à mon avis, c'est juste un feignant qui a eu 15 jours de pluie en Bretagne en août, a trouvé sur vente privée un forfait 92 semaines à Alep pour 3 euros, et s'est dit, allez, je prolonge les congés, à moi la glandouille, une actu tous les 5 ans comme Laurent Voulzy. Et je serais bien. Alors il est parti et du coup depuis hier, bah tout le monde l'aime, hein, parce qu'on aime la loose et les gens qui souffrent. Moi, si demain je craque à l'antenne en disant j'en peux plus de ce rythme, ça fait 3 jours que je bosse, bah, les auditeurs émus lanceront le hashtag Tanguy on t'aime. Mais je suis cet homme solide, viril et pourtant à l'écoute, parfaite incarnation de la masculinité post affaire Weinstein. Donc si je pars Nagui, 2 heures après vous aurez appelé Alison Wheeler pour lui dire bébé reviens remplacer Pastureau. Je double ton salaire de chez Yann Barthès. Suite à quoi elle vous dira le montant du salaire, suite à quoi vous raccrocherez. Hulot est donc parti, brisé tel une biscotte manipulée par le catcheur Hulk Hogan. Mais pas sans raison, c'est à cause de Thierry Coste. Alors Thierry Coste n'est pas animateur sur France 4, ce qui expliquerait pourquoi on ne le connaît pas. Non, c'est le lobbyiste des chasseurs. Et il est aussi secrétaire du comité Guillaume Tell, qui représente les utilisateurs d'armes à feu en France. Bref, c'est pas le type à qui il faut faire bouh en arrivant par derrière.
Ah non,
parce que pour peu que vous soyez pas rasé, il se met à hurler « Bordel, un sanglier !» et vous dégomme. Daniel Morin, par exemple, qui figure au Larousse dans la définition du mot hirsute, a une espérance de vie de 13 centièmes face à Coste. Et il nous dit France Info, c'est un proche de Macron, hein, Manu, le seul gamin de son âge à pas arracher les ailes des mouches, mais à faire dégommer les tourterelles par ses potes à micro-pénis, qui se tape une érex en battant un dain en train de crever. Alors conseiller officieux, bien sûr, tout le monde est officieux là-dedans, hein. Pour un mec qui a un contrat de travail, il y en a 10 qui bossent gratos. Je pense que Macron est contre l'argent. Il va finir à Goa à échanger du LSD contre des bouts de corail avec d'autres hippies défoncés à l'agneau d'éléphant.
Donc ce Thierry Coste était présent lors de la réunion avec les chasseurs.
Oui, Nagui, c'est Thomas Legrand de la matinale d'Inter, donc un homme qui nous ressemble mais en plus fatigué, qui a révélé ça hier. Hein, Hulot avait prévenu Macron en fait qu'il ne voulait pas de lobbyistes. Hein. Il y en a, c'est le jus sur le poulet, lui ce sont les lobbyistes. Donc il arrive à la réunion, se dit je vais juste voir des chasseurs de base, donc des gens ivres. Et là, paf le canard sauvage, il voit Coste. Donc il demande à Macron ce qu'il fait là, Macron répond je ne sais pas comment il est entré. Hein, il ne pouvait pas dire à Hulot, mec je te prends pour une buse, parce que dans une réunion de chasseurs, hein, c'est un coup à se faire flinguer. Donc il a joué l'innocent, alors que Coste était bien sûr le bienvenu à cette réunion morbide de tueurs d'oiseaux. En plus, comme d'habitude, Hulot a obtenu que dalle, alors que les chasseurs ont eu moins 50% sur le coût du permis de chasse. Et peuvent tranquillou tirer sur tout ce qui fait ou cui 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 ou non papa c'est moi Kevin ton fils putain hein, éclater la faune à grands coups de balle. Alors à noter que certaines espèces d'oiseaux protégées pourraient même intégrer la liste des animaux chassables, ouais, c'est dingue, open ça. Bar sur c'est la dingue. Nature. Thierry Coste a bien bossé hein, d'ici un an à part 2-3 exhibitionnistes cachés dans les fourrés, il y aura plus rien de vivant en forêt, ça va être aussi silencieux qu'un casting de petites chanteuses folk à la voix frêle. Bref, de mon point de vue, c'est une horreur puisque je préfère les animaux en vie aux animaux morts, contrairement aux légionnaires nécrophiles qui aperçoit la carcasse d'une biquette en bas du ravin. Jamais un chien mort ne vous fera la fête quand vous rentrez chez vous. Alors certes, vous économisez en croquettes, mais niveau convivialité et odeur, ben on y perd. Hein. Oui. Alors sinon, hier, les chasseurs ont tweeté contre Hulot en disant, je cite, « Il n'a jamais été l'ami des écologistes de terrain ». Et donc en fait, les écologistes de terrain, c'est eux. Hein. Donc moi, j'ai rien contre les chasseurs. Hein. Exploser des bêtes, c'est peut-être génial. On tire, il y a le recul, on se sent puissant, l'animal s'effondre dans une giclée de sang en se disant « Purée, j'aurais dû aller brouter à la madrague hein. ». Mais là, s'appeler écologiste de terrain parce qu'on tape dans le tas, c'est comme si Marc Dutroux prétendait être titulaire du BAFA juste parce qu'à un moment, il a fréquenté des jeunes. Alors, monsieur Macron, vous savez quoi ? Vous les aurez, les voix des chasseurs au prochain scrutin. Ils sont plus d'un million. Hein. Mais ceux qui kiffent les bêtes plutôt que les politiques qui vont à la soupe, ils sont tellement plus nombreux. Et eux, ils n'oublieront pas.
Merci, Tanguy Pascal. La bande originale, Nagui, sur France Inter. Leïla Slimani, vous êtes pas dans le gouvernement, mais en tout cas, vous êtes représentant de la francophonie.
Il est observateur. Hein, ouais, il
non, sait. Non, mais vous avez un rôle qui a été donné ou décidé, en tout cas, que ce soit par Emmanuel Macron ou Édouard Philippe, peu importe. Mais je voulais savoir comment vous avez vécu, vous, toute cette journée d'hier et ce départ de Nicolas Hulot.
Mais pour revenir un peu à ce que je disais tout à l'heure, je trouve qu'on est dans une époque et dans une société, on est toujours tenu d'être fort, d'être ambitieux, d'être résilient, on est beaucoup dans ces trucs de valeurs américaines d'ailleurs, l'empowerment et tout ça. Et finalement, j'ai trouvé ça extrêmement, à la fois surprenant, courageux et vraiment émouvant de voir quelqu'un dire « peut-être que je ne suis pas à la hauteur, je pense que je ne vais pas y arriver », de dire « j'ai plus la foi » et du coup, comme j'ai plus la foi, bah, j'ai envie d'arrêter. Et toutes les contreparties qui sont les miennes, que ce soit le pouvoir...
C'est pas vraiment...
Ce qu'il a dit.
J'ai plus la foi, j'y arrive pas.
À un moment, il a dit « je n'ai plus la foi ».
C'est parce qu'il n'était pas soutenu, il a rajouté, parce qu'il était seul.
J'ai
qui avec moi, j'ai qui derrière moi pour me soutenir. Il se sentait un peu seul au sein du gouvernement.
Mais il dit « je n'ai plus la foi, je n'y crois plus, je crois plus que je sois capable de changer les choses ».
Il va rester écolo toute sa vie.
Évidemment, mais il n'a plus la foi dans son ministère et dans son rôle de ministre. Et je trouve ça très fort d'être capable de faire ce genre de bilan qui sont des bilans extrêmement douloureux sur le plan personnel et puis les conséquences qu'elles ont. Donc j'ai trouvé que c'était un moment vraiment très émouvant et très, très fort.
Vous connaissez bien Emmanuel Macron, vous pensez qu'il est vexé, déstabilisé, fâché
Ah bah ça j'en sais rien. Je le connais pas assez et puis en plus je suis pas il connaît pas mes émotions, je connais pas ses émotions, c'est des choses intimes, je sais pas du tout ce qu'il a pu ressentir. Je suis comme tout le monde, je peux que l'imaginer. Et je suppose que voilà, il a forcément été surpris et déstabilisé, mais ça, je pense que n'importe qui peut l'imaginer.
En tout cas, il y avait une vraie émotion. On a revu les images dans le studio d'Inter.
C'était palpable. Enfin, on sentait vraiment quelqu'un qui était bouleversé.
Au bord des larmes. Dans l'avenir, Leïla Slimani, on a parlé tout à l'heure de l'adaptation, merci, de Chanson douce. Vous avez été sur le tournage tout à l'heure, vous nous avez expliqué que c'était dur à vivre. Ce projet en est où exactement ? Le tournage est fini ?
Le tournage est fini, donc sans doute que l'année prochaine, à mon avis, début d'année prochaine.
D'accord. Qui le réalise ? Qui l'incarne ? Qui le joue ?
Alors, il est réalisé par Lucie Borloteau, qui a fait un très très joli film qui s'appelle Fidelio, qui a aussi réalisé une série qui s'appelle Cannabis. Et le rôle principal, donc le rôle de la nounou, c'est Karine Viard. Et puis Leïla Bekti dans le rôle de Myriam et Antoine Reinhardt dans le rôle de Paul.
Ça devait pas être Maïwenn qui...
Oui, ça devait être Maïwenn, mais finalement, voilà, le cinéma, voilà, c'est... Les choses changent. Mais ce qui est assez drôle, c'est que quand même le couple est joué donc par Leïla et Antoine, et que mon mari s'appelle Antoine, et donc c'est quand même assez étonnant de voir ce couple Leïla et Antoine qui jouent les parts.
Hasard de
voilà,
la vie.
La mise en abîme. Voilà.
Hasard de la vie. Tiens, vous dites mise en abîme, c'est marrant. Moi, je dis Daniel Morin.
Bon, vous le savez, c'est officiel, France Inter et la radio officielle du Scoop en direct. Du coup, cette chronique sera en direct de plusieurs points chauds où l'actu peut bondir à tout moment. Nous irons bien sûr à Deauville, où les préparatifs du 44e festival ont lieu en ce moment même, avant l'ouverture prévue après-demain. Nous suivrons également en direct un groupe de chasseurs qui célèbrent ce matin leur nouveau privilège, qu'on appelle chez James Bond le droit de tuer, le permis de tuer. Autre point chaud et léger à la fois, on a appris qu'à l'occasion de la dernière journée du championnat de France de football, juste avant le match Nantes-Caen, un couple s'est vu refuser l'entrée du stade par les forces de l'ordre. Ils étaient sous comme des cochons. Pour manifester leur mécontentement, les deux tourterons ont trouvé un moyen ludique d'attendre la fin du match et le retour de leurs amis supporters. Ils ont fait l'amour devant les CRS. Cela va-t-il devenir une nouvelle tendance?
Non, c'est vrai.
Oui, c'est vrai. Une nouvelle tendance pour tuer le temps. Si, si, sérieux.
Non, c'est vrai.
La rédaction, c'est vrai.
La rédaction,
la rédaction de France Inter s'est mobilisée. Pour commencer, nous partons à Deauville. Ici à Deauville, on peut lire l'inquiétude sur le visage des organisateurs du festival. Il pleut depuis plus de 24 heures. Les routes sont inondées. La gare est fermée. L'aéroport submergé. La présidente Sandrine Kiberlain devrait arriver en barque d'ici quelques heures ou quelques jours. Ah ben ça, la Normandie, quand il pleut, hein. Faut pas faire semblant. Actu toujours, je vous le disais, à Nantes, un couple éméché interdit de stade s'est laissé aller à quelques voluptés face au CRS. Moment rare ou nouvelle tendance? Élément de réponse. Qui l'eût cru? C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'attente à la nantaise. Ça devient un véritable phénomène. Hier, dans les locaux de France Inter, lassé d'attendre Nagui, qui ne venait pas le saluer, l'invité Alex Lutz a violemment fait l'amour à Tanguy Pastureau, sous le regard ébahi de deux vigiles de Radio France qui, excités par le spectacle, ont fini par les imiter. Petit tour à présent à la campagne où les chasseurs fêtent leur permis de tuer. L'amour! L'amour, regarde!
Cours!
Je te garde, il y a un gibier!
Non, c'est une vache, on n'a pas le droit!
Si, Macron a dit oui!
Bon, ok. Pétard plein dans le mille! Ouais, en même temps, il était à 2 mètres.
Ou en étant du côté de Deauville. Ici en Normandie, c'est la cata. Il y a 10 minutes, le projectionniste du festival a été retrouvé noyé dans un caniveau de la ville. Les membres du jury déjà présents ont été évacués, installés dans le grenier de l'hôtel. Quant à Sandrine Kiberlain, la présidente du 44e festival, sa barque a été aperçue en train de dériver, emportée par les inondations. Et là, en ce moment même, pendant que je vous parle, un dauphin vient de me passer entre les jambes. Aïe, 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 ça sent pas bon tout ça. Le phénomène prend de l'ampleur, une ampleur inattendue. Tout le monde semble fan de la nouvelle mode de l'attente à la nantaise. Hier, au Danemark, Emmanuel Macron avait rendez-vous au Palais Royal. Lassé d'attendre la reine, le président aurait arraché ses fringues avant de sauter sur sa ministre de la Culture pour lui faire l'amour très très sauvagement sous le regard incrédule des gardes royaux. À l'arrivée de Margrethe II, Emmanuel et Françoise ont continué leurs ébats. Réputée coquine, la souveraine de 78 ans n'a pas failli à sa réputation. Non, et s'est jointe à la fête. Alors où en est-on chez les chasseurs?
Là, là!
Oh là!
Là, regarde le gibier!
Non, 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 ça on peut pas.
Si, le président Macron l'a dit oui! C'est plus considéré comme une espèce protégée! T'es sûr? Oui, je t'ai dit, pousse-toi, je tire!
Ah, c'est vrai que ça fait quand même bizarre de tirer sur un prêtre! Allez, vite, un dernier point en Normandie. Ici, la pluie redouble d'intensité. Cette fois, tout le monde est réuni dans le grenier du palace. Les forces de l'ordre, les membres du jury, le personnel de l'hôtel, les invités spéciaux. La présidente Sandrine Kiberlain ne sera vraisemblablement pas présente pour l'ouverture. Sa barque a été aperçue en pleine mer, à environ 300 km des côtes, en pleine tempête. Combien de temps les festivaliers seront bloqués? Combien de temps vont-ils attendre dans le grenier de l'hôtel? On ne sait pas, mais quoi qu'il en soit, des organisateurs auraient déclaré, pour tuer le temps de façon festive, on a prévu d'initier tout le monde à l'attente. À la nantaise! À demain.
France Inter, la bande originale, avec Nagui.
Bon, j'ai regardé la météo, il va faire beau quand même.
Ça veut rien dire.
Normalement, c'est vrai. Ça veut rien dire. Ok. Non, mais c'est une très belle ville. Sarah Giraudeau, vous serez prochainement à l'affiche du film Les Traducteurs de Régis Roinsart avec Lambert Wilson et Olga Kurylenko. Quel est votre personnage?
Je joue l'assistante de cet éditeur qui est joué par Lambert Wilson.
D'accord. Et l'histoire, le résumé de l'histoire?
Timide. Ouais. Et réservée. Voilà. L'histoire, elle est incroyable. Elle est très très bien, très très bien écrite. Donc je peux pas. Vous voulez que je vous raconte vraiment?
En une phrase. Non mais.
En plus, c'est inspiré un peu d'un
fait réel.
Enfin, d'un écrivain réel.
Donc voilà, c'est le second tome d'un best-seller qui va sortir, et pour pouvoir faire une sortie, on va dire mondiale, et un éditeur décide d'enfermer dans un bunker, je sais plus combien ils sont, 9 ou 10 traducteurs, pour que ce soit traduit en même temps et que la sortie soit simultanée dans le monde entier. Et donc, mais pour ça, et pour qu'il n'y ait aucune fuite, il va falloir les enfermer, leur enlever tout, internet, téléphone, tout ça. Et ça va devenir un espèce de huis clos totalement fou. Donc c'est...
Mais pardon, c'est une histoire vraie?
Non, mais ça a été inspiré de la sortie d'un best-seller d'un grand écrivain américain qui, effectivement, au moment de la sortie du best-seller, ils avaient enfermé pendant une semaine, mais bon, pas dans un bunker, mais dans une maison, les traducteurs, pour pas qu'il y ait de fuite. Mais parce que ça représente dans le monde de l'édition des sommes absolument colossales. Et puis si le truc commence à fuir sur Internet, c'est terminé.
Mais là, c'est un scénario qui est vraiment très très bien écrit, et chaque personnage est extrêmement bien caractérisé, et l'intrigue est super.
Vous incarnez Marina Loiseau, l'espionne des GSE, donc dans la série Le Bureau des Légendes, depuis 2015, initiée par Éric Rochand. Ça continue ?
Oui, la saison 4 sort là en octobre.
Très bien. Et vous êtes retrouvés toutes les deux. Je ne sais pas si vous êtes retrouvés autour du même micro, mais en tout cas, vous êtes dans le même projet. On a eu la visite tout à l'heure amicale de Jules dans ce studio, dans 50 nuances de grec. C'est-à-dire, vous avez prêté votre voix à l'animation qui passe sur Arte, c'est ça,
Léa? Oui, tout à fait. Moi, je faisais la voix d'Ariane.
Et vous?
Moi, je ne sais plus. Non, je ne sais plus exactement le prénom.
Vous voulez que ce soit en VO?
Pardon,
vous,
Jules.
Il est furieux, il fait un bras d'honneur à tout le monde. D'accord. Salut.
En tout cas, cette série d'animation 50 nuances de grec sera diffusée à partir du 3 septembre. Le grand jeu concours.
Retrouve
la voix de Sarah Giraudeau quelque part. Tu ne sauras pas tout de suite quel est le personnage. L'écriture de roman, évidemment, je ne peux pas ne pas vous poser cette question, Leïla. Est-ce que vous avez un roman?
Oui, je suis en train d'écrire le troisième. Là, je suis en pleine écriture, donc ça va me demander un petit peu de temps, mais voilà.
Alors, on a eu la nounou, l'histoire de la sexualité dans le Maghreb. Quelle est la toile de fond sans dévoiler l'histoire?
Non, je ne peux pas vous raconter du tout, ni la toile, parce que la toile, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, c'est quand même autour de mes obsessions habituelles, un personnage féminin principal, mais aussi en même temps quelques changements, vous verrez. Faut être un peu patient.
J'ai hâte en tout cas. Des excuses à présenter, Daniel.
Bien sûr, désolé en premier pour Leïla, notre Leïla, ma Leïla, ma Kadour, ma Dadi. Malheureusement, malmenée, tambourinée, souillée par Nagui.
Mais en même temps,
l'angine gastro, c'est vrai que c'est dégueulasse. Désolé pour Sarah, notre Sarah, ma Sarah Giraudeau, qui était tout bêtement venue pour parler cinéma américain ce matin et qui s'est retrouvée à devoir détailler la façon d'écraser des bananes au milieu des...
J'ai eu très mal, ça m'a fait très mal.
Merde, sans déconner, on n'est pas chez Trapenard. Oh là. Désolé pour la langue française qui a été souillée, humiliée par Guillermo Guiz et sa sculpteuse. Oh la vache quand même, Ernesto. Heureusement que tes parents sont en Belgique et qu'il n'y a pas la radio là-bas, sinon ils auraient honte de toi. Hein. Désolé pour Benito Guiz encore, qui a découvert ce matin qu'il était meilleur en interro qu'en chronique. Bon, c'est toujours ça, mon pote.
Demain, nous recevrons Fanny Valette et Patrick Chenet. Nous parlerons théâtre et, je le rappelle, le 44e festival du film de Deauville, avec entre autres Leïla Slimani et Sarah Giraudeau. Ça commence à partir d'après-demain.
Après-demain,
j'ai peur.
N'aie pas peur, lance-toi.
Jusqu'au 9 septembre, et il fera beau. Et sans équipe Berlin, et il va embarquer toutes les infos sur le site internet de Radio France, de France Inter. Merci Leïla Slimani,
merci
beaucoup, Sarah Giraudeau. Bonne journée, bon festival. Bonjour Philippe Bertrand.
Oui, bonjour Nagui, bonjour les amis.
Bonjour. Salut.
21 degrés vendredi après-midi.
Tu vois, moi aussi, je suis allé voir la météo.
Ressenti 24, mais attention, le soir, prévoyez une petite laine. 16 degrés avec des rafales du nord de 20 km/h.
Et il s'y connaît. Hein.
Ah, le service public.
Ah, c'est fou. C'est la gastro, je sais pas ce qui se passe chez vous. Avant, c'était Daniel, maintenant c'est Léa.
C'est une angine, elle a qu'une angine.
Ah, une angine.
Elle a une angine, donc évidemment, mal à la gorge, tu peux pas faire la radio.
Bah oui.
Voilà.
Oui.
Alors que.
À moins de...
Bon, allez, passons à autre chose, arrêtez. C'est gênant.